Aimez vos ennemis. Ça semble une contradiction dans les termes. Ben oui, on se dit, mais si je les aime, ce ne sont pas mes ennemis. Et si ce sont mes ennemis, ça veut dire que je ne les aime pas. Alors comment est-ce qu'on peut rendre compatibles l'un et l'autre? Ça semble paradoxal, ça. En fait, il y a une distinction à faire. C'est que on peut entendre par ennemi celui que je n'aime pas, celui qui m'agace. Je le vois, j'en ai des boutons sur le visage. Et l'ennemi, celui qui ne m'aime pas. Celui qui, dans son cœur, développe des pensées et des projets mauvais à mon égard. Alors, il y a ennemi, ça peut désigner celui qui m'agace, mais aussi celui qui me veut du mal. Regardons comment cela existe, j'allais dire, en Dieu même, dans les relations de Dieu, parce qu'il est, lui, notre modèle. On nous dit que Dieu est amour, c'est saint Jean qui va l'affirmer dans sa première épître. Et le livre de la Sagesse disait ceci, « Dieu aime toutes ses œuvres, sinon il ne les aurait pas faites. » Donc ça signifie que Dieu n'a pas d'ennemis au sens que Dieu aurait des personnes qu'il n'aime pas. Dieu aime toutes ses œuvres, sinon il ne les aurait pas faites. On distinguera cependant qu'il y a des comportements et des actes qui ne sont pas aimés de Dieu. Mais les personnes elles-mêmes sont aimées de Dieu. La preuve, c'est qu'ils existent. Si Dieu se détournait d'eux, ils cesseraient d'exister. Dieu est amour et Dieu est fidèle à ce qu'il est. En revanche, il y a bien des personnes qui ne l'aiment pas. Le tentateur, le diable, le démon et ses anges n'aiment pas le Seigneur. Ils refusent de tout leur être son alliance, et cela éternellement. Donc Dieu a des ennemis, non pas par un vice de son caractère, mais Dieu a des ennemis parce qu'il y en a qui se rebellent contre lui, qui ne veut pas entrer dans la logique d'amour qui est la sienne. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de relever ça? Parce que si Dieu peut avoir des ennemis, des gens qui ne l'aiment pas, ça peut nous arriver à nous aussi. Et qu'il faut parfois sortir un peu d'une illusion que si j'ai des gens qui ne m'aiment pas, ça doit venir d'un défaut de ma personnalité. Alors parfois c'est vrai, oui mais pas seulement. Il y a des gens qui ne m'aiment pas alors que je me suis comporté droitement et justement envers eux. Il y a des gens qui peuvent fomenter des projets agressifs, injustes contre moi. Il suffit de voir dans le monde la persécution des chrétiens pour voir qu'il y a bien des ennemis des disciples du Christ et des ennemis des disciples du Christ qui réclament leur tête et leur sang. Donc, il peut y avoir réellement des ennemis. Et alors, comment ces ennemis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que de les aimer? Parce que, on dit, mais c'est pas possible, comment? Je peux pas me forcer à aimer. Alors quand on dit ça, en fait, on se représente l'amour comme un sentiment. Et il y a une erreur là-dessus. Alors c'est vrai, il existe le sentiment amoureux, mais l'amour dont parle le Seigneur n'est pas un sentiment. Le sentiment, c'est quelque chose qui va et qui vient selon notre forme du moment. Voilà, je suis en forme, il fait beau, j'ai le cœur léger, j'ai le sentiment, on peut dire, amoureux, peut-être facile. Et puis, je n'ai pas bien dormi, je me suis disputé avec un proche, et là, non, j'aime personne. Oui. Dieu ne parle pas du sentiment, c'est vrai, le sentiment, il va, il vient, on le constate. Mais l'amour tel que nous le révèle le Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est d'abord un acte de la volonté. Et alors on va comprendre, justement Jésus donne le Père en image, en disant, il est bon pour les justes et les injustes. Il fait lever le soleil, tomber la pluie, pour les pécheurs et pour les justes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vis-à-vis des personnes, le Seigneur donnera le nécessaire. Il aura le souci du soin de la vie de l'autre. Mais comprenons bien que avoir le souci le soin de la vie de l'autre, ça ne veut pas dire que ces actes ne sont pas graves ou que ces actes ne sont pas mauvais. Le Seigneur est en guerre contre le péché, mais il veut sauver le pécheur. Et voilà le nœud du comportement que le Christ nous invite à prendre. Il nous invite à devenir les images du Père. C'est ainsi, dit-il, que vous serez les fils du Très-Haut. Aimez vos ennemis, oui, ce n'est pas quelque chose de spontané. Ce n'est pas quelque chose que j'ai immédiatement envie de faire. Immédiatement, ce que j'ai envie de faire, c'est « tu m'as bousculé, je te bouscule ». Et ça vient d'ailleurs de quelque chose de profond en nous, c'est le désir de communion d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce qu'en me bousculant, en étant injuste envers moi, tu as brisé notre communion. Comme je suis un être de communion, je voudrais que tu le comprennes. Mais pour que tu le comprennes et que la communion se refasse entre nous, il faut que tu aies une idée de où tu m'as envoyé là. En bousculant, tu m'as envoyé à terre, je me suis fait mal. Il y a tout un drame qui s'est enchaîné. Pour qu'il y ait communion de nos deux histoires, il faut que tu comprennes quelque chose de ce que j'ai vécu. Et donc un peu mon mouvement immédiat, c'est de dire, que tu connaisses au moins l'équivalent. Pourquoi ? Derrière ça, fondamentalement, il y a un désir de communion, parce que nous sommes des êtres de communion. Sauf que cette technique-là, nous savons qu'elle porte rarement du fruit comme règle. Parce que qu'est-ce qui va se produire à un mal déjà objectivement présent, on va ajouter un nouveau mal. Voyez, œil pour œil, dent pour dent, ça va faire des édentés et des borgnes, ou des aveugles. Alors vous me direz, mais c'était déjà un progrès. Oui, c'est un progrès pour limiter la rétribution. C'était une logique de rétribution. Tu m'as fait, je te fais. Parce qu'il y en avait d'autres qui disaient, et on avait ça, un descendant de Caïn qui s'appelait Lamech, et qui, lui, c'était, on peut dire, la politique de la terreur. Moi, j'ai tué un enfant pour une meurtrissure. Caïn est vengé 7 fois, moi, je suis vengé 70 fois. Lamech, c'était la surenchère. La loi du talion venait déjà limiter cela, mais c'était simplement une logique de rétribution. Là, le Seigneur veut instituer une logique nouvelle et exemplaire, au sens de « faites à votre prochain le bien que vous voudriez qu'il vous fasse ». Vous allez montrer, vous allez témoigner du bien que vous voulez faire. Il y a un acte prophétique en ce sens-là. On ne dit pas « Ah, ce qui m'a fait n'était pas grave ». Non, ça pouvait être grave, ça pouvait être profondément inique. Mais l'objectif, c'est de briser la logique de la rétribution dans la violence pour ouvrir à un autre avenir, pour donner l'idée d'un autre avenir. Et saint Paul va insister en disant « Mais le Seigneur a donné sa vie pour nous alors que nous étions encore ennemis de Dieu. » Ce que le Seigneur nous demande de faire, lui qui est le Fils du Père, c'est ce que lui-même a fait, c'est vrai. Et il le dit « Vous serez, en vivant ainsi, les fils de votre Père qui est aux cieux. » Et c'est extrêmement important d'entendre ça. C'est extrêmement important d'entendre ça parce que parfois on se dit « Je vais essayer de faire un effort. » Mais je me rends compte que mes forces naturelles n'y suffisent pas. Non, tu as été injuste envers moi, j'ai vraiment envie de te taper. Donnez-moi une batte de baseball et tu vas en prendre plein la tête. De fait, c'est présent dans mon cœur. Et je peux parfois ne pas dire, je suis brûlant de cela. Mais comment est-ce que je peux le dépasser? Si je le nie, je ne le dépasse pas, je garde ça comme un lac d'acide en moi et ça me brûle de tout ce que je suis. Si j'explose comme un volcan, alors je détruis tout aussi autour de moi. Il y a une nécessité là, à dire, Seigneur, tu m'appelles à un comportement que toi seul peux vivre. Et donc, je te demande ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin du même esprit qui était en Jésus, jusqu'au bout de son humanité. Sinon, ce n'est pas possible. Et c'est vrai, sinon, ce n'est pas possible. Et on doit alors faire mémoire, pour demander cela de tout notre cœur, de ces hommes qui ont été retournés par l'acte du Christ. Ces hommes qui ont été retournés par l'acte du Christ. Voilà, pensez à un Zachée connu pour être ce voleur chef des publicains, des collecteurs d'impôts de Jéricho. Et Jésus va l'appeler, lui. Mais comment l'appeler lui, mais avec tout ce qu'il a fait? Jésus a su, par son appel, toucher les 2 millimètres de bonté dans les kilomètres d'iniquité de Zachée. Il a pris un risque. Oui, et Zachée en a été retourné. Pensez encore au larron sur la croix, qui, voyant comment Jésus vit et comment Jésus meurt, s'est dit, pour nous, après ce qu'on a fait, notre sort est juste, mais lui n'a rien fait de mal. Et il est là, présent sur la croix. Souviens-toi de moi. Jésus saisit le millimètre de justice dans les kilomètres d'iniquité de la vie de cet homme. Il y a des cœurs qui sont prêts à changer face à cet exemple que le Christ donne. Il y a des cœurs qui sont prêts à changer. Alors on pourrait dire, le grand mystère, c'est que ce n'est pas écrit sur leur front. Ce serait un peu plus simple. On dirait, cœur prêt à changer. Alors oui, je vais vivre cette générosité au-delà. Ce n'est pas marqué sur le front. Et donc, c'est vrai, je suis appelé à le vivre à l'aveugle. À l'aveugle, mais en sachant qu'il y a des cœurs qui sont prêts à cela. Et c'est ces cœurs-là qu'il ne faut pas rater. Le Seigneur nous envoie en mission pour les cœurs qui sont prêts. Il y a des cœurs qui sont prêts autour de nous à recevoir la lumière de Dieu, à changer de vie, si l'exemple de la vie même de Dieu leur est donné. Une vie qui sort de la logique de l'enfermement de la vendetta et de la vengeance. Alors nous sommes appelés aujourd'hui, en cette Eucharistie, à la fois à entrer en vérité devant le Seigneur. Et en disant, Seigneur, je vois que dans mon histoire, j'ai peut-être des ennemis véritables. Il y a des gens qui me veulent du mal. Alors, il y en a qui m'agacent aussi, mais il y en a vraiment qui me veulent du mal. Pourtant, je crois que parmi ces hommes que je rencontre, il y a peut-être des cœurs qui sont prêts à être retournés. Alors fais de moi ton fils, fais de moi ta fille, en vivifiant en moi la force de l'Esprit Saint. Que je puisse manifester à cela, dans le service de la vie, la gratuité de ton amour. Qu'ils puissent en être saisis, qu'ils puissent en être retournés. Donne-moi la force de le vivre, parce que sans ton Fils, ce n'est pas possible. Lui seul a pu entrer dans la passion, donner sa vie sur la croix et ressusciter. Si je suis hors de lui, je ne peux rien faire. Seigneur, donne-moi ton esprit. Donne-moi de vivre comme ton fils, d'être ton fils, ta fille, car il y a des cœurs qui sont prêts pour le royaume. Seigneur, je ne te demande pas de faire abstraction de la justice, comme David avait manifesté à Saül qu'il le pourchassait injustement. Mais c'est toi, Seigneur, qui feras justice. C'est toi qui rendras à chacun selon sa part. Seigneur, moi, aujourd'hui, je te demande ton esprit pour vivre en ton Fils, pour donner ce témoignage que là où le mal a régné, le bien, la miséricorde règne avant tout. Amen.